9 février 1984, philosophie de l'art, Père Philippe Saint-Joseph.
Pourquoi l'art ne peut-il pas finaliser ma vie humaine? C'est une question, hein, c'est vraiment plus important. Hein. Pourquoi et dans quel but l'artiste recherche-t-il la solitude par rapport au reste des hommes? Deuxième question. Troisième. Pouvez-vous préciser la matière propre à l'art poétique et quelles sont ses intentions avec l'art musical? Quelles sont ses interactions avec l'art musical? Bon, alors je réponds. D'abord, l'art ne peut pas finaliser la vie humaine parce que le but de l'art, c'est l'œuvre et que l'œuvre provient de l'homme. Et que si ça provient de l'homme, c'est le fruit. Ça ne peut pas être la fin qui permet à l'homme d'aller plus loin et de se dépasser. Vous voyez, l'art achève, complète l'univers. Si l'homme était finalisé par l'univers, l'art finaliserait l'homme. Ça, c'est sûr. Mais comme il y a la finalité de l'homme ne peut être que celle de l'esprit, l'esprit qui regarde un bien universel, un bien absolu. L'œuvre n'est jamais un bien universel et absolu. Seule une personne humaine peut finaliser l'homme, et non pas une œuvre d'art. Alors je peux perfectionner la personne humaine pour la rendre plus agréable, pour lui permettre d'être plus personne, alors à ce moment-là je coopère. L'art de l'éducation coopère à la finalité de l'homme, voyez, parce qu'il permet de faire des hommes plus parfaits. Mais l'œuvre d'art comme telle ne finalise pas. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas dire que l'art finalise la vie humaine. Dans quel but l'artiste recherche-t-il la solitude? Il recherche la solitude, c'est à cause de son inspiration. C'est l'exigence de l'inspiration, ça. C'est l'exigence de l'intelligence. L'intelligence a soif de solitude. Notre cœur a soif de communication. Et notre intelligence a soif de solitude. C'est vrai qu'il y a des périodes de solitude et des périodes de communion. Parce qu'à cause du cœur, on a besoin de communion, on a besoin de se relier aux autres. Mais l'intelligence comme telle a une exigence de solitude. Mais c'est le travail en commun, c'est exaspérant pour des gens un peu intelligents. Vous voyez dans quel sens? C'est bien momentanément, mais vous voyez, si on avait un séminaire tous les jours, hein, c'est très très bien un séminaire, parce que de temps en temps, ça permet d'échanger. Mais au fond, l'intelligence humaine a besoin de rechercher seule. Après, elle peut communiquer, mais elle a besoin de rechercher seule. Et pour l'inspiration, c'est la même chose. Un artiste a besoin d'être seul. En tant qu'il est inspiré et en tant qu'il veut que son inspiration s'empare profondément de ce qu'il est, alors il a besoin de cette solitude. Alors la matière propre à l'art poétique, la matière propre à la vie, c'est le langage. C'est le langage humain. Alors, c'est justement ça qui est très curieux. Hein. On n'a qu'à réfléchir un instant là-dessus. La matière du charpentier. Tous charpentiers, certaines œuvres. La matière du charpentier, c'est le bois. Et le bois, en grec, c'est oumé. C'est vraiment la matière. La matière pour le poète, c'est la parole. Et la parole, c'est le logos. Voilà les deux extrêmes. Saint-Joseph Tatcheba, parce qu'il travaillait le bois. Hein? Il n'y a rien de plus silencieux que le menuisier. Tout le monde sait. Le bois gémit, mais le bois ne répond pas, ne parle pas. C'est-à-dire que les poètes ont besoin de communiquer aux autres. Ils ont besoin. Même s'ils travaillent dans le silence, ils ont besoin de se communiquer. Tandis que l'artisan, d'une façon générale, l'artisan, très connu de voir combien les artisans sont silencieux. Très silencieux, les artisans. Ça va très bien avec Saint-Joseph. Il essaie de nous apprendre le silence. La matière. Tandis que la parole, non, c'est pas silencieux. Un poète a besoin du silence dans la phase de travail et de maîtrise de la parole, mais c'est autre chose, il a besoin de la communiquer. Alors vous voyez, la matière, elle gémit, c'est-à-dire qu'elle attend d'être informée. Vous voyez toute la différence entre l'information de la matière, l'indétermination du bois et l'indétermination de la parole. Ça, ce serait très intéressant à voir. La parole par elle-même n'est pas indéterminée, c'est un logos. Et c'est pour ça que le poète qui veut transformer ce bois qui est la parole doit découvrir où dans la parole il y a l'indétermination pour permettre d'informer la parole. La parole poétique, c'est une parole déterminée au carré. C'est un logos au carré. C'est en sens là qu'elle est symbolique. On va lui donner comme une nouvelle signification. On va essayer de faire que ça prenne une nouvelle signification. C'est très curieux, ça. Tandis qu'au contraire, le point de vue du bois, la matière comme telle, le bois, mais c'est beaucoup plus indéterminé. Ça permet de... Alors, c'est la question de savoir... Quand l'art prend une matière moins déterminée, ou une matière beaucoup plus déterminée, quand l'artiste se sert d'une matière beaucoup plus déterminée, son génie doit être dans les relations. Tandis que lorsque l'artiste prend une matière beaucoup moins déterminée, son génie est dans la forme. Pas nier que le génie du poète, c'est de faire des liens qu'elle n'en avait pas. C'est là où il fait gémir la parole. Il l'oblige de sortir d'elle-même pour reprendre une vigueur qu'elle n'avait plus. Mais la parole s'use, hein, notre parole usée, la parole du commerçant, qui n'est pas poétique. Hein. La parole du commerçant, elle est usée. Il emploie très peu de mots. Le poète cherchera au contraire à trouver des mots qui ne sont pas employés, qui ne sont pas usés, pour mieux les mettre en lumière. Constamment, ça. C'est l'art poétique. Bon, je vais continuer quelques petites remarques sur la musique, hein. Sans parler de la liturgie, mais en ayant toujours le point de vue liturgique derrière. Hein, vous voyez bien, c'est intéressant de faire la philosophie de la liturgie et la philosophie, et par la liturgie, c'est l'art chrétien. C'est l'art religieux, la musique, art sacré, la liturgie, art religieux, et la liturgie chrétienne, art chrétien. C'est très intéressant à faire ça. Au point de vue pour nous, parce qu'il faut d'abord en faire une théologie avant d'en voir l'application. Et souvent, on n'a pas de théologie de la liturgie. C'est ce qui m'a semblé, moi, dans toute la réforme liturgique qui s'est faite sans théologie. Une réforme liturgique qui se fait sans théologie, ça va n'importe comment, parce que c'est subjectif. Tandis qu'il faut une théologie de la liturgie pour qu'on comprenne ce que c'est. Vous voyez, quand on dit « il faut que les jeunes s'expriment », vous comprenez que c'est liturgique. Il faut que les jeunes s'expriment. On n'a qu'à les faire crier dehors en récréation. Alors ce serait une belle liturgie, ce sera le vacarme. Mais il faut que les jeunes s'expriment. Ce n'est pas ça la liturgie. Ce n'est pas le plaisir de l'expression pour l'expression. Non, non. C'est quelque chose de sacré, c'est quelque chose de religieux, c'est quelque chose de chrétien. Alors, Je continue à propos justement de ce que je vous disais, la musique. C'est quelques petites remarques hein, que ça demanderait. Tout ce que j'ai dans l'activité artistique, c'est plutôt des orientations. Je souhaiterais, vous voyez, que ce qui est dit là soit complété par des hommes du métier. Le philosophe ne peut faire une philosophie de la musique, une philosophie de la liturgie, qu'avec des hommes du métier. Parce que ça se découvre à travers même de l'œuvre qu'on fait. On ne peut pas faire une philosophie de la sculpture en soi. Il faut avoir discuté longuement, pour le philosophe, longuement avec des sculpteurs. Il faut avoir vu travailler des sculpteurs. Et puis essayer de comprendre. Le sculpteur ne comprend pas. C'est un homme aussi silencieux, le sculpteur. Ils sont très silencieux, les sculpteurs. Si vous en avez fréquenté, ils n'aiment pas qu'on parle. Pas du tout. Un sculpteur est silencieux. Comme un menuisier. C'est très curieux. Dis-moi qui te fréquente, je te dirai qui tu es. Hein? Si vous fréquentez le bois, eh bien, le bois, il ne parle pas. Si vous fréquentez la pierre vous rend silencieux. C'est très, très curieux. Et puis, je crois, il y a ce fait, c'est qu'on est attaché à un travail difficile. Alors, attaché à un travail difficile, on est silencieux, parce qu'il faut être attaché à ce travail silencieux, ce travail difficile. Donc, je vous disais la dernière fois, la musique est aussi l'art. Je disais, l'art est donc l'art le moins dépendant de la matière et l'art le plus fugitif et le plus dépendant de la durée. Ça, c'est aussi une chose très importante. La musique est liée par le fait même à la vie. C'est un art très vital, la musique. C'est très lié à la vie. Et c'est ce que les psychanalystes aujourd'hui essaient de faire, vous savez, de redécouvrir la musique avant la naissance. C'est un point de vue très particulier. On voit très très bien. C'est au fond, ils essaient de redécouvrir ça parce que la musique éduque. Tous les anciens disaient ça. Nous avons une éducation sans musique depuis Descartes. Hein, Descartes, il a beaucoup de péchés sur la zone. Nous avons une éducation sans musique, alors que la véritable éducation devrait se faire avec le rythme de la musique. Parce que l'éducation, c'est la vie. C'est le développement de la vie. Alors, il faut comprendre que la musique est liée à la vie. Ça, c'est très très fort. C'est lié très fort à la vie. La musique est aussi l'art le plus affectif, le plus vital, et le plus subjectif. Donc il y a une immanence dans la musique, beaucoup plus forte que dans les autres œuvres. Plus immanent. Toujours ce qui est le point de vue de la vie. Étant par excellence l'art de la sonorité, la musique est l'art du mouvement vital. Elle est vraiment l'art le plus dynamique, celui qui recherche à exprimer avec la qualité du son, le plus pur, la vie, la durée vitale, essayant d'en déceler le rythme interne et originel. Le rythme est lié à la vie. La vie a un rythme, tandis que le non-vivant n'a pas de rythme. Oui. Sauf si vous donnez à la matière un rythme, mais la matière n'a pas de rythme, la matière n'est pas vivante en soi. Il faut toujours bien distinguer, mais sans les séparer, l'ordre, la mesure du rythme. Le rythme, c'est pas l'ordre, c'est pas la mesure, c'est quelque chose d'autre. Car si le rythme implique toujours ordre et mesure, comme éléments essentiels et fondamentaux, l'ordre et la mesure, par contre, n'impliquent pas toujours en acte et explicitement le rythme. Il y a quelque chose de plus. L'ordre, la proportion, parce que la proportion c'est lié à la mesure, le rythme est autre chose. Par exemple, la notion du temps physique implique ordre et mesure, mais le temps physique en soi n'implique pas le rythme. Celui-ci semble n'apparaître explicitement qu'en raison de la durée du vivant. C'est la durée du vivant qui implique un rythme. Le temps physique du vivant implique toujours un certain rythme. Le rythme de la croissance, du repos, du vieillissement, le rythme des saisons, le rythme de l'état embryonnaire du vivant et le rythme de son agonie. Il y a des rythmes différents. Le vivant implique son point de vue du rythme. Il est lié à ça. Le rythme fait appel à un élément qualitatif de densité, d'intériorité, que l'ordre et la mesure n'impliquent que matériellement. C'est une intériorité, le rythme. On prendra l'exemple, si vous voulez, d'un ressort. Mais le ressort, c'est ce qui est le plus proche dans l'ordre mécanique. Hein. Un ressort très, très, qui est plus ou moins tendu, et dans la mesure où il se détend. Alors, il y a un certain rythme à ce point de vue-là, mais ce n'est pas la même chose du tout, hein, c'est matériel. Parce que ça vient de l'intérieur lorsqu'il s'agit d'un vivant. Le phénomène physique qui est à l'origine du son musical est le mouvement vibratoire périodique. Mais si nous voulons prendre une image tout à fait courante, c'est celle du ressort qui exprimera le mieux cette densité d'énergie capable de qualifier du dedans un mouvement physique en lui donnant une physionomie propre. Cette densité d'énergie, je dis bien que c'est ce qui est le plus proche, hein, mais c'est encore matériel. Pas un ressort, c'est autre chose. Mais c'est ce qui est le plus proche, je crois, dans le monde physique. Ce qui nous fait le mieux comprendre un peu ce que représentent ces éléments matériels comparativement à cette chose nouvelle qui est la vie. Cette densité d'énergie chez le vivant possède une certaine qualité d'intensité provenant de l'immatérialité même de son âme vivante. La durée est nécessaire au rythme. L'immanence est nécessaire au rythme. Et le rythme, c'est un développement de croissance qui se fait selon un certain ordre, mais de l'intérieur, dans une immanence intérieure. Donc, cette âme permet une pénétration qualitative au-delà de l'extériorité et de la juxtaposition purement quantitative. Il y a la qualité. Une qualité particulière dans cette densité. Par là, nous pouvons mieux saisir la parenté, l'affinité qui existe entre la musique et les mathématiques. Très curieux que très souvent, on a fait des parallélismes. Le grand parallélisme des pythagoriciens, le parallélisme qu'a donné saint Augustin, et on le retrouve dans la musique moderne. Alors, faisons attention, hein, quand vous dégradez la musique, vous la ramenez à la qualité, à la quantité. Aux mathématiques. C'est une dégradation de la musique de la ramener aux mathématiques. Ça ne veut pas dire que les mathématiques sont inférieures à la musique, mais c'est une dégradation. Les mathématiques ont une dignité de science que n'a pas la musique. Mais la musique a une qualité d'intensité et de rythme que n'ont pas les mathématiques. Mais il y a une parenté entre les deux. C'est très très curieux cette parenté entre les mathématiques et le point de vue de la musique. Les mathématiques, au dire des philosophes anciens, c'est-à-dire d'Aristote et de Platon, sont finalisées par l'ordre, l'harmonie et la beauté. C'est ce que dit Aristote. Il dit ça dans le livre Mu et Nu. Elles réalisent un ordre merveilleux, complexe et simple, extrêmement pur. C'est vrai que du côté de l'ordre, les mathématiciens sont des gens qui ont un sens de l'ordre très aigu. Les grands matheux ont un sens de l'ordre très 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 fort. Et par là, ont un sens du rythme. Ils saisissent dans le rythme l'ordre. Il y a quelque chose de plus dans le rythme, qui n'est pas uniquement l'ordre. La musique peut se servir de cet ordre, de cette harmonie, mais elle ne peut s'en contenter. Elle se matérialiserait si elle se ramenait à ça. Elle doit les dépasser pour rejoindre l'ordre de la vie, l'âme cachée, le rythme. Le rythme, c'est l'âme cachée dans la vie, dans l'opération vitale. C'est le rythme vital que l'art musical capte et révèle avec éclat, de multiples manières. Et c'est la splendeur de ce rythme de la vie que capte le point de vue de la musique. Alors vous avez tous les rythmes, hein, et c'est ce qui explique toutes les nuances de la musique, parce que vous pouvez avoir ça. Alors vous avez le rythme de la vie végétative, le rythme de la vie végétative, je parle de la vie des arbres, des forêts, de tout ça, hein, les grands vents, les bourrasques, c'est extraordinaire, le rythme de la vie des bourrasques. Alors là, il n'y a pas longtemps, on est bien situé ici pour entendre ça. Et si on était dans une forêt, quand on est dans une forêt ou sur la mer, n'est-ce pas, on sait ce que c'est. Et vous voyez, là, il n'y a pas de... C'est très curieux, c'est quelque chose de très spécial, ça. C'est bourrasque comme tel. Assister à une forêt, la nuit, parce que vous entendez mieux le son la nuit, hein, parce que vous n'êtes pas dérangé par la lumière. C'est toujours très dérangeant, la lumière, pour capter uniquement le son. Hein. C'est pour ça que les aveugles, ordinairement, ont un sens beaucoup plus musical que les autres, un sens beaucoup plus grand. Nous, on est dérangés par le point de vue de la lumière. Quand on veut chanter avec beaucoup de dévotion, on est à tout. Ça augmente la dévotion. Je ne dis pas que ça augmente la beauté, mais ça augmente la dévotion. Il y a sûrement quelque chose qui est plus fort dans la... Et c'est très vrai, on a tous senti ça. Entrer dans une cathédrale le soir où il n'y a plus que la petite lumière, la lampe du sanctuaire uniquement, mais immédiatement vous êtes saisi par quelque chose, quoi. C'est à moins d'être un rustre, n'est-ce pas, qui ne saisit rien du tout. Autrement, on est saisi par quelque chose. C'est très curieux. La lumière, vous voyez, extériorise un peu. La lumière, c'est le peintre. Alors, le peintre, lui, intériorise la lumière. Mais le béotien ne l'intériorise pas. Il ne l'intériorise pas du tout. Et vivre dans un monde de lumière comme le nôtre, on allume l'électricité dès qu'il fait. Si on avait un petit lampion, on vivrait beaucoup plus. Ça diminue beaucoup l'intériorité. Notre culture d'aujourd'hui est une culture électrique, n'est-ce pas? Et alors, elle diminue beaucoup l'intériorité. Ça, c'est bien évident. Je suis très heureux d'avoir vécu dans ma jeunesse, parce que le petit lampion, on était occupés. Alors on avait les grandes soirées, sans rien. Et c'était merveilleux. Parce que ça fait tout à fait autre chose. Et dans ces soirées, ma mère racontait l'histoire sainte de l'Ancien Testament. C'était merveilleux. On avait des longues soirées, des petits lampions, rien du tout. Alors ça donne tout de suite une intériorité beaucoup plus profonde, hein. L'intériorité d'amour. Il faut comprendre ces choses-là. Alors, est-ce qu'on pourrait faire ça, une communauté d'intériorité? Vous voyez, c'est merveilleux. Nous n'avons pas l'électricité, nous, parce que nous voulons avoir un rythme d'intériorité. Alors, à partir de telle heure, c'est fini, plus de lampions, chacun sa technologie, comme ça. C'est pas commode, une grande communauté. 5, 6, oui, peut-être. Pour arriver à ça. Mon morin, pas d'électricité, surtout pas. Pour ceux de Saint-Jean qui viennent, il faut bien, parce qu'ils viennent de la ville, ceux-là, il faut bien. Mais autrement, les autres, non, pas du tout. Il faut qu'ils reprennent le rythme de la nature, et donc, c'est très vrai, tout ça. Un ermite n'a pas besoin d'avoir l'électricité. Et c'est faux. Qui doit reprendre un rythme d'intériorité. Mais nous avons besoin, c'est évident. Alors ça se rattrape sous d'autres points de vue. Il faut pas. Je prends ici un point d'opposition. Il y a d'autres avantages, c'est évident. Et on ne peut pas toujours rompre avec tout ce qui existe. Donc, sous cet aspect, n'est-ce pas, la musique apparaît bien comme l'art par excellence, celui qui exprime le mieux le rythme intime de la vie. Alors, de tous les degrés de vie. Et vous auriez là de tous les degrés de vie. La vie végétative, des plantes, des arbres. La vie passionnelle et affective. Ça, bien évident. La romantique. C'est extraordinaire. Et le rythme de l'intelligence et de la contemplation. Ça, c'est beaucoup plus rare. C'est peut-être celui-là que doit représenter la liturgie. Le rythme de la prière. Elle doit capter le rythme de la prière. le rythme de l'action de grâce. Elle transpose en le transfigurant le rythme propre du mouvement vital dans toute son impétuosité instinctive, qui ne demande qu'à jaillir. Elle exprime le rythme harmonieux et violent du mouvement vital, contenu, retenu, arrêté dans son élan. Ou, au contraire, le rythme harmonieux et doux du mouvement vital avec toute la fraîcheur d'un mouvement spontané jaillissant de source. Et ainsi suit tous les rythmes de la vie et des trois degrés de vie. Là, on voit la richesse extraordinaire de la matière sur laquelle la musique va s'enrichir. C'est quelque chose, il y a une richesse extraordinaire et qui est toute proche de l'homme, vous voyez, du rythme de l'homme, de l'enfance. C'est pour ça que c'est lié à l'éducation. Et ça, je crois que c'est très très important de comprendre ça au point de vue musical. La musique est l'art qui exprime la beauté du souffle, de la respiration, de l'amour retenu, simple murmure ou souffle impétueux et violent, tel l'ouragan, et ainsi de suite. Alors, le jugement de Ramu sur Stravinsky est particulièrement intéressant. J'étais en Suisse quand j'écrivais ça, donc c'est Ramu. Du reste, c'est vrai, c'est intéressant. C'est celui d'un poète qui saisit un musicien, d'un ami qui découvre le génie de son ami. Toujours intéressant. La rencontre des saints, c'est intéressant. La rencontre des artistes, c'est toujours très intéressant. D'un poète rencontrant un musicien. Un poète qui saisit le musicien. Plus simplement, alors il nous dit ceci, c'est un souvenir sur Stravinsky. Plus simplement, ce que je percevais en vous, c'était le goût et le sens de la vie, l'amour de tout ce qui est vivant, et que tout ce qui était vivant était pour vous, comme d'avance et en puissance de la musique. Très joli. Tout ce qui est vivant, c'est de la musique. Je m'étais rappelé la phrase de Nietzsche. J'aime celui qui veut créer plus haut que lui-même et périt ainsi. Oui, une belle phrase de Nietzsche. Ah, Nietzsche a des choses très belles. J'aime celui qui veut créer plus haut que lui-même. On ne peut créer que plus haut que soi-même. Autrement, c'est plus la peine. Et périt ainsi. Donc il meurt en créant quelque chose de plus haut que lui-même. Et celui qu'alors j'aimais en vous était celui qui, au contraire, crée plus bas que lui-même et ne périt pas. Alors, on voit très bien ce qu'il veut dire. Hein. C'est pour montrer. Et parlant du public, Ramu souligne ça. Il ne consent pas à admettre que cette réalité musicale soit mouvement à l'origine, un mouvement tout corporel, donc tout physique, et qui, parti du corps, fasse retour au corps vivant, je crois qu'il faut dire, pour que ce soit plus juste, mais ce n'est pas étonnant qu'il ne précise pas, on ne va pas demander à Ramu de faire de la philosophie. Il ne conçoit pas qu'un des rôles de la musique soit de mettre en mouvement, et le corps tout d'abord, comme dans la danse, comme dans la marche. On voit très bien les marches pour vous faire marcher, disons, au point de vue musical. Ensuite, mais ensuite seulement, et par lui, les sentiments et l'esprit. Comme, bon, c'est la vie, donc tous les degrés de vie, d'une certaine manière, sont présents. Parce que c'est la vie humaine, en définitive. Ou encore, s'il le conçoit, ce rôle-là n'est pour lui qu'un rôle accessoire et inférieur, au lieu qu'il faudrait voir qu'il est élémentaire, essentiel, primordial. Nous n'en étions pas encore au jazz, mais on ne peut pas ne pas voir que le jazz band plus tard, a été une véritable révolte de certains besoins de la musique. Alors là, il faudrait comprendre hein, pour quand on dit ça. Donc les trois degrés. Si de fait c'est le rythme de la vie humaine que l'artiste prend, si c'est le rythme de la vie humaine, nécessairement vous avez les trois degrés. Et vous avez les interférences des trois degrés. Vous ne pouvez pas abstraire. La musique ne peut pas abstraire, elle compose. Et je crois que c'est cette remarque qui fait comprendre que toujours dans la musique, il y aura le mouvement corporel. Et le mouvement corporel ne peut pas s'abstraire. Il y a ce réalisme-là, vous voyez. Et c'est vrai, regardez, vous n'avez qu'à voir les chanteurs. Même les chanteurs ici, c'est très amusant quand vous les regardez. Ils bougent et les Grecs disaient que c'était les doigts de pied, j'ai particulièrement le doigt, quand ils chantaient. Alors, et c'est vrai, forcément, un chantre ne va pas rester figé, immobile. Non, c'est absolument impossible. Il est pris par le mouvement. Alors, si on poussait un tout petit peu, ça va être à danser une danse sacrée, hein, une danse poétique, une danse religieuse et liturgique. Mais on voit très bien. C'est quoi? Conventionnellement, on a arrêté. Alors, je ne vous demande pas de le faire. Conventionnellement, on a arrêté. Mais j'ai vu en Afrique, je vous l'ai dit, des petites carmélites chantant Magnificat admirablement, et alors elles dansaient. Mais c'était sacré, c'était religieux, c'était marial. Parce que c'était fait avec une espèce de force contenue. Comme le Magnificat. Le Magnificat, c'est une force contenue. Et alors, c'est très très net. C'est le grand mouvement de l'économie divine à travers tout le monde. Et alors, c'était spontané. C'était pas du tout quelque chose, si vous voulez, comme on peut le voir pour nous quand on dit ah, il faut la danse dans la liturgie. Alors, vous voyez des gens qui se mettent à danser à la liturgie. On se met pas si il n'y a plus de différence entre l'opéra et la liturgie. Parce que c'est tellement laïcisé qu'il ne retrouve plus le point de vue religieux. Notre corps est tellement laïcisé qu'on a beaucoup de peine de retrouver le point de vue religieux. Ça, c'est vrai. Il faut le reconnaître. Pas en Afrique. Mais en Europe, notre corps est tellement laïcisé. Il a été laïcisé par Descartes, que voulez-vous. C'est une machine. Alors, c'est évident qu'il a été laïcisé. Le corps n'est pas laïcisé en Grèce. En Grèce, c'est très net. La sculpture grecque n'est pas laïque. Elle est sacrée. Et elle est souvent religieuse. Si vous êtes attentif, vous voyez que elle est souvent religieuse. Je sais très bien que les Jeux olympiques jouent un grand rôle aussi, n'est-ce pas? Mais si vous faites attention, vous voyez qu'elle est beaucoup plus religieuse qu'on ne pense. Et surtout, quand elle peint, c'est très curieux. Alors là, c'est une notion qui est très curieuse. Vous voyez que là, c'est les athlètes, c'est le fait qui sont du côté, les hommes, c'est le jeu. Et les femmes, c'est toujours religieux dans la statuaire grecque. Toujours. Il n'y a pas de statue de femme sans être religieuse. Alors l'homme, il joue. C'est un fait. Alors, on voit beaucoup plus du côté sportif. Ça m'a beaucoup remarqué, ça m'a beaucoup frappé, ça. Pour essayer de comprendre un peu, parce qu'il faut essayer de comprendre ces choses-là. Il y a là quelque chose, c'est un fait. Et c'est un fait quand vous regardez la sculpture, le passage de l'Égypte à la Grèce, vous voyez très très nettement ce point de vue-là. Et ça m'a beaucoup frappé de voir combien l'art statuaire est religieux. Eh bien, c'est parce que ça touche à la liturgie, ça, je dis ça, ça touche au mouvement. C'est là où on voit le point de départ et le lien entre la musique et le point de vue de la sculpture, par le point de vue de la danse. La danse est l'intermédiaire entre les deux. C'est l'intermédiaire entre la musique et la sculpture. Et vous avez les deux qui jouent. Et alors, c'est le mouvement. Parce que le point de vue de la danse, c'est évident que c'est le mouvement et c'est le rythme, comme même dans la musique. Mais c'est un rythme incarné et parfaitement immanent, encore plus immanent que la musique. Très curieux la danse. Hein. C'est un rythme beaucoup plus immanent encore que la musique. Il faut essayer de saisir ces choses-là. Ce jugement de Ramu met bien en lumière l'aspect fondamental de la musique dans son originalité, dans sa naissance. La musique naît du mouvement. La musique implique le mouvement. L'aspect formaliste, académique, risque toujours de voiler l'originalité de cet aspect fondamental. C'est le propre de l'académisme. L'académisme supprime la naissance. On n'aime pas les premiers bégaiements dans l'académisme, alors que les premiers bégaiements sont toujours extrêmement intéressants au point de vue des découvertes de ce que représente un point de vue art. Il suffit de compléter ce qu'ébauche Ramu et nous découvrons alors que la musique, à la différence de la poésie, exprime bien le rythme sonore du mouvement des vivants. Ou si l'on préfère, exprime la sonorité du rythme dans la durée vitale. Je crois qu'on peut dire ça. Donc il implique toujours le mouvement. Le moi est toujours pris, mais le mouvement, ce n'est pas uniquement le mouvement, comprenez bien, ce n'est pas l'étude du mouvement. C'est essayer de donner le rythme profond qui existe en mouvement. Comme la durée vitale elle-même, la musique est mouvement pur et ne signifie rien d'autre qu'elle-même. Elle ne représente rien. Elle peut représenter, mais c'est pas le propre de la musique. C'est quand la musique est liée à l'opéra, alors il y a le point de vue de la représentation et tout ça. Mais la pure musique ne représente rien. La différence avec la peinture, c'est une très grosse différence entre les deux. N'en déplaise à Rousseau, la musique est essentiellement un art non représentatif, parce que Rousseau dit que ça représente, mais Rousseau, au point de vue musical, c'est un peu particulier. Et quand elle a atteint sa forme parfaite, elle dépasse toute figuration. Vous voyez, dans l'art abstrait, il y a de l'influence de la musique. Parce que ça aussi, c'est une autre question. Mais c'est aussi une question très intéressante de voir les interférences des arts. Et les arts peuvent quelquefois se détruire l'un l'autre. Parce que chaque art est autonome. Chaque art a son autonomie, son originalité. Et alors, quand, de fait, il y a des interactions, il peut très bien se faire qu'un art détruit un autre. Je me demande, ça c'est autre chose, dans l'art abstrait au point de vue proprement pictural. On voit très bien comment on est arrivé à cela, c'est une réaction. Mais il peut aussi avoir une espèce d'influence de la musique. Parce que sûrement que la musique dans notre monde d'aujourd'hui joue un rôle principal. Ça, il me semble. C'est du reste pour ça qu'on doit être tellement attentif à la nature. Parce que la culture d'aujourd'hui est une culture qui est avant tout musicale. Parce qu'on a pu étendre le point de vue musical. Quand on voit la différence avec il n'y a pas si longtemps que ça, on écoutait un concert de temps en temps. Aujourd'hui, ça a porté tout le monde. Alors, ça a du bon, mais ça a du mauvais aussi. Parce que ça vulgarise quelque chose qui ne peut pas être vulgarisé. C'est toujours la chose de la démocratie, mais pourtant dedans, les fameuses choses de ça. Hein, parce que vous le vulgarisez, bon, au sens rigoureux, une pièce, un opéra, est unique dans son individualisation. L'art est excellemment individualisé. Et toute œuvre d'art est individualisée de la manière la plus forte qu'il soit. Je dirais que c'est presque une formalisation de l'individualisation, l'art. C'est unique. Alors aujourd'hui, vous êtes bien obligé de préciser quand vous allez acheter quelque chose chez un antiquaire, et vous dites, ah, c'est une pièce unique. C'est pour ça que ça coûte si cher. Vous voyez, c'est une pièce unique. Mais l'art est une pièce unique. La répétition n'est plus de l'art. Or, aujourd'hui, on répète. On a dit des choses merveilleuses pour éviter le vivant. C'est très bien, c'est très très bien de faire ça. Parce que c'est de l'ordre utile. Mais l'utile tue l'art. Et la répétition, d'une certaine manière, tue l'art. La répétition, vous voyez ce que pouvoir reprendre, fait qu'on n'écoute plus de la même façon. Ça, c'est très important parce que c'est un des aspects, je crois, qui font que dans notre monde d'aujourd'hui, le point de vue de l'art a perdu quelque chose qui lui est tout à fait propre, ce mode de l'individualité unique. Ça existe toujours, hein, ça existe toujours, ça existera toujours, parce qu'il y aura toujours des grands artistes qui comprendront ça. Et qui comprendront que les choses ne peuvent pas se répéter. On les donne par mode d'utilité. Mais c'est par mode d'utilité, donc c'est de l'ordre de la disposition. C'est pas ultime, c'est pas dernier. Alors quand vous prenez quelque chose qui est répété comme dernier, vous voyez, vous faussez. Il y a quelque chose que vous ne pouvez plus goûter. Que vous ne pouvez plus saisir. C'est la même chose pour la photo. La photo fait que les chefs-d'œuvre sont donnés, la sculpture est donnée. C'est très bien. Et il y a des gens qui disent, c'est très bien, mais je n'ai pas besoin de voir ça, je l'ai vu en photo. Quand quelqu'un vous dit ça, on n'a plus qu'à tourner le dos et partir. Hein? Parce que c'est justement là, vous l'avez vu en photo, pour vous donner soif de le voir en réalité. Et quand vous l'avez vu, vous ne vous précipitez pas sur votre appareil, je vais le photographier, et puis vous oubliez de le regarder. Hein? Mais vous l'avez photographié. C'est l'essentiel, c'est de l'avoir photographié. Parce que comme ça, je montre à tout le monde que j'y étais, je l'ai photographié. Et j'ai rien saisi. C'est très important, parce qu'il y a quelque chose qui se perd. Il faut éduquer nos sens à saisir l'individuel et à saisir l'unique, à saisir quelque chose qui ne se répète pas et qui ne peut pas se répéter. C'est le propre de l'art. Vous voyez, l'individuel, c'est ça. Alors, je crois que ça, c'est très important de le saisir parce que c'est sûrement un des défauts de notre monde d'aujourd'hui. Le défaut de notre monde d'aujourd'hui, c'est justement grâce à la technique qu'on peut répéter indéfiniment. Et alors, on fait croire que la répétition est aussi belle que la réalité. C'est ce qu'on vous dira. C'est une copie tellement merveilleuse que même les gens les plus érudits se tromperont. Oui, l'érudition se trompe, pas l'artiste. L'artiste ne se trompera pas. Il verra, il dira, c'est très beau. Mais il ne s'occupera pas de savoir si c'est une copie ou pas une copie. Il dira, c'est très beau, c'est très bien. L'érudit, il cherche à savoir si c'est une copie ou pas une copie. C'est comme si c'était ça le point de vue artistique. C'est le point de vue de la connaissance pour distinguer les choses. Et au fond, aujourd'hui, vous voyez, c'est un petit peu comme comme l'art médical au début était un art et est devenu une science, l'art tend à devenir une science. Et le jour où l'art devient une science, il se répète indéfiniment. La série. Point de vue scientifique, c'est très bien la série. Point de vue mécanique, c'est très bien. Et c'est exactement la même chose. On sent très bien qu'on tend vers ça. C'est l'universalisation de la science qui fait perdre à l'art son côté individuel. Un chef-d'œuvre est individuel, il est unique. Et c'est important pour nous, hein, de nous éduquer avec des chefs-d'œuvre. Les vrais, pas trop les copies. Je sais bien, c'est quelque chose de difficile, mais c'est quand même important à comprendre. Donc, voilà pour la musique. Hein. Nous avons vu donc la peinture, la musique, il reste la poésie. La poésie, on ne l'a pas vue. Hein. La sculpture, la danse. Hein. Alors, vous voyez, avant de quitter le point de vue de la musique, hein, parce que ça va être l'heure, encore une minute. Une minute. La vraie musique est sacrée, comme tout art. Tout art est sacré. Alors, quand nous disons que l'art est sacré, qu'est-ce que nous voulons dire? Nous voulons dire que l'art exprime quelque chose qui dépasse la signification normale de la réalité. Ça évoque un autre monde. C'est sacré. Ça évoque un monde transcendant. L'art nous met dans quelque chose qui dépasse. L'art sacré peut devenir un art religieux. Et l'art sacré devient un art religieux lorsque non seulement ça évoque quelque chose de transcendant, mais lorsque ça essaie d'évoquer, d'exprimer une présence qui est une présence qui dépasse toutes les autres, celle du Créateur. Et l'art est chrétien lorsqu'il exprime la présence du Sauveur. Mais pas d'une façon figurative, vous comprenez bien, en l'exprimant. Donc une présence d'amour et une présence salvatrice. C'est ça le propre de l'art chrétien. Il évoque, il exprime ça. Il ne le représente pas nécessairement, parce que c'est nécessairement de représenter toujours le crucifix qui fait que c'est un art chrétien. Il y a beaucoup de crucifix qui ne sont pas d'art chrétien, n'est-ce pas ? Qui sont autre chose. Alors là, c'est très bien, c'est de l'ordre tout simplement utile, voyez ? C'est de l'ordre utile, c'est très très bien, c'est nécessaire, mais c'est pas de l'art. Mais l'art chrétien, c'est lorsque justement il y a expression de quelque chose qui transcende, et non seulement qui transcende qu'est le Créateur, et non seulement le Créateur, mais le Sauveur. Ça, c'est très, très délicat. Et je crois que c'est du côté de l'inspiration qu'on doit le découvrir. Pas du côté de la technique. La technique n'est ni sacrée. La technique n'est ni religieuse.